L'opération du gouvernement s'est officiellement arrêtée hier en fin d'après-midi. En cette fin d'après-midi, il y avait encore quelques personnes qui montaient dans les bus pour les centres d'accueil et d'orientation, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes, notamment des mineurs, qui étaient là et qui ont dû retourner au camp. Bon, le camp, il a été dévasté en grande partie par les flammes, probablement sur plus de la moitié de sa surface, mais cette nuit encore, il y avait peut-être 200 à 300 migrants qui étaient là et aussi des mineurs isolés, qui n'ont pas pu être pris en charge par le centre d'accueil provisoire, qui est l'endroit que le gouvernement a désigné pour les mettre à l'abri et qui ont donc dû dormir dehors ou sous un pont ou dans une école de la jungle avec des duvets donnés en dernière minute par les associations. Ce matin, la police a bouclé le camp, a proposé aux personnes qui étaient là le choix entre partir ou bien être arrêtées. Donc il y a eu un certain nombre d'arrestations, y compris de mineurs qui n'avaient pas été enregistrés dans le dispositif du gouvernement et qui avaient en partie passé la nuit dehors.
Des personnes sont encore sur place ou en tout cas se sont éloignées du camp pour aller un peu plus loin. Comment vont être gérées ces personnes ?
Quand on regarde l'écart entre le nombre de personnes qui étaient sur le camp mi-septembre puis mi-octobre et qu'on compare avec les chiffres du gouvernement, on s'aperçoit qu'il y a entre 3 et 4 000 personnes qui se sont évanouies. De façon certaine, beaucoup sont partis sur Paris, d'autres sont partis vers la Belgique, d'autres, mais là j'ai pas de renseignement précis à ce sujet-là, d'autres essayent de se cacher dans le secteur ici, pas très loin de la frontière. Pour l'instant, la police n'a pas donné d'informations là-dessus, elle patrouille et elle n'a pas donné d'informations sur le fait d'avoir trouvé ou pas trouvé des gens cachés ici dans un bois, un fossé ou une ruine. Les associations non plus, donc on est un petit peu là dans l'expectative. On pense que les personnes qui sont parties vont tenter de revenir, mais plutôt dans quelques semaines ou quelques mois, quand la situation sera un petit peu stabilisée.
Vous êtes investi personnellement et associativement dans cette jungle de Calais. Quels sont vos sentiments actuellement en voyant ce démantèlement ?
On sait que le gouvernement a beaucoup laissé traîner les choses, par exemple sur les mineurs isolés. La moitié des mineurs isolés, à notre dernier recensement, étaient là depuis plus de 3 mois. Donc ces mineurs n'avaient pas été pris en charge par les services sociaux. C'est un exemple, on va dire, d'une politique de laisser-faire. Se sont entassés à Calais, d'une part, des gens qui voulaient être proches de la frontière pour aller en Grande-Bretagne, d'autre part, des gens qui étaient chassés d'ailleurs, qui n'avaient pas d'endroit pour se poser. Il n'y a pas de premier accueil en France. Donc ils trouvaient à Calais un minimum, une tente, une couverture, un repas par jour, un petit peu d'aide juridique, des vêtements, des chaussures, etc. Et aussi une partie des gens qui venaient à Calais pour pouvoir partir dans les centres d'accueil et d'orientation qui existent déjà depuis un an et qui mettent à l'abri des personnes qui envisagent de demander l'asile. Donc on avait cet entassement de population donc lié en partie à la proximité de la frontière et au blocage de la frontière et en partie au fait qu'en France on n'a pas de premier accueil, qu'il fallait passer par Calais pour arriver dans les centres d'accueil et d'orientation. Évidemment, le camp a atteint des dimensions très importantes et la façon dont les choses ont été faites, elle est précipitée. Il aurait fallu prendre le temps de faire un diagnostic, bien connaître la situation des personnes et leurs projets, de façon à ce que les solutions proposées soient adoptées. Par conséquent, la moitié à peu près de la population du camp, un petit peu moins, n'est pas rentrée dans le dispositif du gouvernement, est partie se cacher ailleurs et reviendra probablement. Ce sont notamment les personnes qui gardent leur projet d'aller en Grande-Bretagne et ce sont aussi les personnes qui sont dublinées, c'est-à-dire qu'elles ont laissé leurs empreintes digitales, souvent de force, en Italie, en Grèce ou dans d'autres pays d'entrée et ils ont peur que le gouvernement français les expulse vers ces pays une fois qu'ils seront arrivés dans les centres d'accueil.
Comme vous venez de le mentionner, l'objectif pour grand nombre de ces migrants reste l'Angleterre. Il y a donc de potentiels retours à Calais d'envisager.
Oui, de toute façon, quand on discute avec les Calaisiens, avec les policiers, avec les responsables des autres associations, tout le monde sait bien que les personnes qui veulent aller en Grande-Bretagne ont de bonnes raisons de vouloir y aller. Il y a aussi les passeurs qui les encouragent à rester dans le secteur, hein, c'est leurs clients. Et sans doute le gouvernement le sait aussi, mais ne le dit pas, qu'on n'a pas réglé en détruisant le camp le problème de la recherche des personnes qui veulent vraiment passer en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent anglais, ils ont des amis ou de la famille là-bas, ils savent qu'ils trouveront plus facilement du travail. Ils sont mal accueillis en France, ils ont peut-être été mal accueillis en Italie au préalable. Donc le problème-là n'est pas réglé.
Des mineurs sont encore sur place. Les associations sont inquiétes et sont en colère, n'est-ce pas ?
Oui. Sur les 1300 mineurs qui étaient présents avant le début de l'opération du gouvernement, un peu plus de 200 ont été acceptés en Grande-Bretagne légalement. Les autres, et auxquels sont venus s'ajouter des mineurs qui soit n'avaient pas été répertoriés, soit des mineurs qui sont arrivés de l'extérieur pour essayer de profiter du dispositif de passage vers la Grande-Bretagne. Donc au total, 200 mineurs passés en Grande-Bretagne, il y en a à peu près 1600 qui sont pour à peu près 1500 hébergés effectivement dans le centre d'accueil provisoire et une centaine pour lesquels encore cet après-midi, les associations recherchent une solution avec la sous-préfecture. Évidemment, on n'est pas content, on avait anticipé ce problème-là. Il faut encore ajouter que les 1500 mineurs qui sont dans le centre d'accueil provisoire sont dans un centre qui n'est pas du tout habilité à recevoir des mineurs et notamment il n'a pas l'encadrement humain suffisant pour véritablement les protéger.
Dans ces centres, on a entendu parler de risques de nouveaux Calais, en tout cas dans les villes d'accueil où se trouvent désormais les migrants. Est-ce que c'est un discours qui a été récupéré politiquement ou est-ce que c'est une réelle possibilité ?
Les centres d'accueil d'orientation sont des petites unités, 20, 30, 40, 50, 60 personnes, rarement plus, installées dans l'hôpital désaffecté, un foyer de jeunes travailleurs, un village de vacances, quelquefois un gymnase, bon, quelquefois c'est assez sommaire. Ce sont pas des unités avec des grandes dimensions. L'hébergement et le repas sont pris en charge par l'État. Tous les CAO qui ont été ouverts depuis un an, les choses se passent bien. La relation avec la population environnante est bonne. Les peurs des personnes ou les sentiments négatifs vis-à-vis des migrants, de gens qui ne veulent pas des CAO, ont été relayés, amplifiés, déformés et récupérés par les partis politiques. Il y a autant de citoyens, sinon plus, qui sont prêts à contribuer à l'accueil que de personnes qui s'opposent à l'installation de ces CAO et qui agitent des menaces de camps sauvages, etc., ce qui est complètement ridicule.
Dans une horizon post-jungle de Calais, est-ce que vous envisagez de partager votre expérience, celle que vous avez pu avoir durant ces derniers mois ?
L'auberge des migrants, donc, qui existe depuis 2008, qui s'est beaucoup développée à mesure que la population des réfugiés a augmenté, va continuer ses activités. S'il y a des gens qui se posent ici ou là, on essaiera de les aider à travers des toujours pareils, des tentes, des couvertures, de l'alimentation, etc. On commence à aider aussi des associations parisiennes qui manquent de tentes, de couvertures, parce que à Paris, il y a beaucoup de migrants. La police les chasse des trottoirs, détruit des tentes, détruit des sacs de couchage. On est obligé d'aider les associations parisiennes à reconstituer leur stock et pour pouvoir continuer à les distribuer aux personnes qui sont sans abri. On a aussi monté tout un réseau de bénévoles autour des centres d'accueil et d'orientation de façon à améliorer l'accueil citoyen et à veiller aux droits des réfugiés. On a recruté à peu près 3000 bénévoles en 2 mois et ces personnes-là sont prêtes à apporter leur soutien autour des CAO, personnes qui sont dans les CAO, dans les centres d'accueil et d'orientation. Et s'il le faut, nous, on enverra aussi de l'aide matérielle s'il manque de vêtements, de couvertures, de chaussures, etc.